Voilà, et bien comme chaque mercredi à 17h30, vous retrouvez le magazine Lila Info, consacré donc à l'actualité, mais aussi aux questions de fond, aux questions de sens de l'Université de Lille 1. Nous allons parler aujourd'hui de valorisation, et notamment des services offerts par la direction de la valorisation, qui s'appelle la DIRVED. Donc une direction qui s'occupe de la recherche, de la valorisation des études également, doctorales. Et donc c'est Madame Martine Lecoutre que nous accueillons, qui est directrice de la DIRVED. Bonjour Madame Lecoutre.
Bonjour.
Donc on peut déjà vous demander comment cette structure qui s'appelle la DIRVED est organisée, quelle est, on a un peu exprimé les missions, mais en gros les chantiers qu'elle aborde actuellement.
Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, je ne suis pas directrice de la DIRVED, mais directrice de la valorisation. Donc, je suis en charge de la valorisation depuis le 1er février, donc c'est tout récent pour moi. À cette occasion, la DIRVED s'est réorganisée en deux grands services. Donc, un service, comme vous l'avez dit, qui organise la recherche, la structuration des laboratoires et les affaires doctorales, qui est à la tête de ce service, il y a Claude Nodot. Et moi, je suis donc à la tête de la partie valorisation, à proprement parler.
Donc quand on dit valorisation, il y a valeur, moi j'allais dire aussi valeur ajoutée de l'université sur les cursus.
Alors voilà, effectivement, il y a peut-être lieu de préciser un peu ce qu'on entend par valorisation. Il y a la valorisation, on va dire, traditionnelle, classique, bien connue et maîtrisée des enseignants-chercheurs, qui est la valorisation de leur recherche par les publications, la participation à des congrès, des communications, voire la valorisation de leur recherche par l'enseignement. Ça, c'est quelque chose de classique et on ne s'occupe pas de cela à la DIRVED. Effectivement, Notre préoccupation, elle est davantage tournée vers la plus-value en termes un peu économiques. On désigne par valorisation le processus qui va de l'idée nouvelle issue du laboratoire à la conception d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé qui sera commercialisable. Donc c'est un accompagnement des chercheurs dans tout ce processus, l'objectif étant pour l'université d'être un acteur économique sur le territoire et donc de pousser les laboratoires à avoir plus de collaboration avec le secteur économique, aller plus vers les transferts technologiques et à déposer par exemple plus de brevets, etc. Donc voilà un peu nos missions et c'est quelque chose qui aujourd'hui prend de l'ampleur dans le contexte économique qui est le nôtre.
Donc mission de conseil, mission d'accompagnement. Est-ce que la région Nord-Pas-de-Calais et notamment l'Université de Lille 1 est compétitive dans cette valorisation de ce qui se fait dans son sein ?
Alors, l'université de Lille 1 est assez dynamique depuis sur ce domaine. Elle est dans le paysage régional, une des universités avec d'autres assez en pointe sur le sujet. Et elle s'est structurée depuis déjà plusieurs années pour accompagner les chercheurs dans ce domaine.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes que ça touche ?
En termes de services ou de...
Mais les conseils que vous donnez, le fait d'épauler des gens et des projets, ça intéresse combien de... Ça s'adresse à combien de personnes, la population, je veux dire, que vous soutenez, que vous aidez ?
Alors, potentiellement, ce sont tous les chercheurs de l'université.
On peut peut-être dire combien il y en a ? C'est une colle.
À plus de 2000, il me semble. Voilà.
D'accord.
En gros, on gère 400 contrats. Mmh. Hein, dans nos services, on a Lilin a un portefeuille de 75 brevets à peu près. Mmh. Et puis on fait aussi de l'accompagnement aux porteurs de projets d'entreprises, que ce soit des étudiants ou des enseignants-chercheurs. Et là, on a c'est un service qui existe depuis 2001 et le bilan d'activité de service, c'est l'accompagnement d'une plus de 50 projets et il y a plus de 25 entreprises qui ont vu le jour et qui fonctionnent.
Alors, dans notre région, on le voit quand il y a des congrès, quand il y a des journées, voire plusieurs jours, des foires, des salons consacrés à l'emploi, au développement des entreprises, etc. Il y a beaucoup de personnes ou de structures chargées de conseiller. Est-ce que ces conseillers ou ces structures conseillantes croisent leurs activités? Est-ce qu'elles sont concurrentes sur ce marché de l'aide, de l'accompagnement projet?
Alors effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de structures qui accompagnent les créateurs. Elles sont en relation entre elles, mais elles ne sont pas... Alors, soit elles sont spécialisées sur des domaines comme la biologie santé, comme les métiers de l'information et de la communication, ou elles sont un peu plus généralistes. Mais elles sont toutes en réseau et fonctionnent toutes ensemble.
On a évidemment conscience qu'il y a des enjeux importants, notamment des enjeux régionaux. Il y a aussi des enjeux de carrière pour les gens qui sont ici en poste, en recherche, en situation de recherche. Est-ce que le fait d'être accompagné ou de voir la possibilité de l'être, après tout on n'est pas obligé de se servir du service, fait que l'université est intéressante en termes de lieu d'accueil et de travail?
C'est quand même plus facile d'être accompagné, puisque quelque part, pour quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, dans la création d'entreprise, ben, c'est un nouveau métier. Il y a des aspects un peu particuliers à maîtriser. Et donc, effectivement, l'accompagnement paraît nécessaire. Par exemple, le service Créinov, qui accompagne les porteurs de projets, offre d'abord une prestation d'accueil, des bureaux, de l'accompagnement en termes de formation et de conseils tout au long de la maturation du projet.
Donc ma question, je vais la préciser, est-ce que le fait que ce service existe peut inciter des enseignants, des chercheurs, des scientifiques à s'installer dans l'université de Lille?
Je l'espère, oui.
C'est fait pour ça.
On a effectivement des étudiants, les enseignants-chercheurs, certains se lancent dans la création. Plus souvent, ils sont plus dans le soutien scientifique aux porteurs de projets, c'est-à-dire qu'ils viennent cautionner et apporter leur expertise scientifique à des jeunes gens, des thésards, par exemple, qui vont se lancer dans la création d'entreprises. Mmh.
Est-ce que d'une génération à l'autre, ces chercheurs qui au bout d'un moment ont créé leur entreprise et sont devenus peut-être indépendants gardent un lien fort avec l'université?
Souvent, parce que il s'agit dans notre cas de création d'entreprises innovantes, et donc le lien avec le laboratoire, soit d'origine, soit au fur et à mesure que l'activité se développe, peut-être d'autres laboratoires qui viendraient compléter les compétences et le champ de l'entreprise se révèlent souvent nécessaires.
Mmh. L'université devient finalement, même après la création de l'entreprise et j'allais dire son départ de cette pépinière, qu'on peut estimer une pépinière, devient encore un lieu ressource en cas de besoin, en cas de nécessité, pour aller plus loin peut-être dans des développement.
Alors il y a, ce n'est pas la fonction de Créinov en soi d'assurer cette pérennité. Par contre, effectivement, l'incubateur Créinov fait partie d'un dispositif intégré dans lequel il y a le porteur de projet commence son projet chez Créinov, mais va le poursuivre dans un autre type d'incubateur plus poussé et peut finir et peut continuer son parcours dans une ruche d'entreprise, par exemple Ciel qui se trouve ici à Lodbonne juste à côté. Intègre une ruche d'entreprise dans laquelle, effectivement, il y a un certain nombre de porteurs d'entreprise de liens se trouvent. Et effectivement, c'est ainsi que le lien se perdure. C'est-à-dire que c'est un peu la mission du parc Hordeborn, c'est-à-dire assurer pour des entreprises innovantes le lien entre le campus et l'entreprise sur le plan scientifique.
Alors, vous venez de parler du parc de la Hordeborn. Est-ce que c'est un lieu destiné à l'implantation définitive des entreprises ou à une forme de pépinière et que les entreprises présentes quitteront, sinon la région, du moins ce lieu ?
Il y a différents types d'entreprises sur la Hordeborn. Certaines sont là, effectivement, de manière pérenne. D'autres peuvent être là de manière plus transitoire. Ceci me fait penser à un projet que la communauté Lille Métropole est en train de soutenir. Va naître un hôtel d'entreprise sur le parc de la Hordeborn, dans lequel effectivement les entreprises sortant de la ruche d'entreprise vont pouvoir s'installer pour continuer à maintenir ce lien entre le campus et leur lieu d'installation. Elles sont là aussi longtemps qu'elles en ont besoin. Mmh.
Donc, dans ces entreprises, elles ont parfois des ambitions différentes. Est-ce que certaines cherchent des développements à l'international ?
C'est possible, oui, tout à fait, bien sûr.
Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent conseiller sur, justement, la façon d'aborder ce marché ?
Alors, pas au sein de l'ILA, c'est d'autres structures, c'est la fonction, par exemple, de Ciel, effectivement, d'assurer le lien entre les besoins de l'entreprise et le monde académique. Alors, en priorité, le monde académique métropolitain, on va dire, mais bon, si le besoin était international, pourquoi pas. Mmh.
Donc, il y a dans la région quelque chose, peut-être vous allez le redéfinir, qui s'appelle presse. Mmh. Est-ce que vous avez des liens avec cette structure dont les lettres sont encore un peu étrangères à beaucoup, mais qui va prendre une certaine importance?
Alors, le presse, donc le pôle de recherche et d'enseignement supérieur, existe depuis maintenant quasiment un an. Est en train de se structurer, de s'étoffer. Donc effectivement, un certain nombre de services de lien, dont celui de la valorisation, est impliqué dans le presse. Le presse a pour mission notamment de renforcer et d'offrir, est un outil de mutualisation de l'ensemble des membres du presse en termes de valorisation.
Donc on peut peut-être rappeler que le presse regroupe plusieurs universités.
Toutes les universités, les écoles de la région. Il y a aujourd'hui 26 membres au PRESS, donc les établissements d'enseignement supérieur, un certain nombre d'organismes de recherche.
Et que comme grand partenaire, on va citer Lille Communauté Urbaine, peut-être, la région qui est aussi intéressée
qui
cherche aussi à travailler avec la communauté urbaine pour assurer une cohérence régionale,
je pense. Donc tout à fait, la région, par ses missions, dans ses compétences, l'action économique, et donc à développer un schéma régional d'innovation. Et de manière plus récente, l'île métropole a aussi pris la compétence recherche-innovation et vient compléter pour le territoire métropolitain l'action de la région.
Alors on peut peut-être aussi récemment rappeler que récemment, une vice-présidente de l'université est maintenant au conseil régional chargé justement de ce genre d'action et d'initiative. Ça peut favoriser.
Elle est élue, elle devrait effectivement jouer son rôle d'élu régional. Cependant, j'imagine bien qu'effectivement, son appartenance à l'ILA peut être un moyen de faciliter.
Voilà. Donc je pense que son premier chantier, ça va être de retrouver l'île comme unité urbaine pour justement mener de front ce gros chantier qui est vital pour la région. Quand on voit les difficultés économiques qui existent encore, on peut se dire que la cohérence est nécessaire.
Il y a effectivement cohérence. Enfin, je crois que l'île métropole est soucieuse effectivement d'être en complémentarité du schéma régional.
Mmh. Voilà, donc toutes ces initiatives, est-ce qu'elles sont listées quelque part? Est-ce qu'on peut savoir qui est soutenu, qui peut-être veut faire part de son témoignage par rapport à cette action qui est menée de soutien, d'accompagnement?
L'île métropole a défini 6 filières de soutien qui sont donc le textile et les matériaux innovants, tout le secteur biologie, santé et nutrition, tous les métiers de technologie de l'information, de la communication, de l'image, les métiers de la distribution, de la vente à distance, on comprend bien pourquoi aussi. Les métiers de l'environnement et le secteur de l'environnement et des éco-activités et le secteur tertiaire dit supérieur.
Mmh. On est en général plutôt dans de l'innovant.
On est sur à la fois des secteurs économiques importants pour la métropole lilloise et sur effectivement plutôt de l'innovation, enfin, tâcher de développer l'innovation dans ces secteurs-là.
Donc on peut dire que ça contribue au redéveloppement
économique
donc dans le cadre d'un projet qui est maintenant connu et qui se met en application.
Alors, ça se traduit sur le terrain par un certain nombre d'actions concrètes et tout à fait visibles par la population. Il y a des zones d'activité qui se développent, enfin qui sont mises en place. On a Euratechnologie près de l'homme, à l'homme, sur les métiers de l'information et de la communication, qui est où l'île métropole a réhabilité deux usines textiles pour offrir aux entreprises de ce secteur économique un plateau technique très performant.
Ça y est, ça fonctionne à plein temps maintenant là-bas ?
Ça fonctionne, oui, et les entreprises viennent s'y installer. On a le parc ici de la Haute-Borne, bien sûr. Donc on voit ici à proximité le dynamisme désormais de ce quartier. On a la zone de Rassanté, au sud du CHR, qui s'est extrêmement développée, qui accueille des entreprises du secteur biologique, santé, et puis aussi des entreprises, des organismes de recherche, des organismes de formation. Donc on en a tout un quartier très très dynamique. Il y a la zone de l'Union sur Tourcoing qui est en train d'émerger, qui va accueillir le CETI, le Centre européen des textiles innovants, qui est un gros projet de 40 millions, quand même quelque chose de très important pour la région. Il y aura une halle technologique qui est de 15 000 m², dont 9 000 m² de laboratoire. Donc avec des équipements qui seront très innovants, donc quelque chose d'important. Et puis à proximité, il y a aussi la plaine de l'image qui se trouve à proximité du Fresnois et du CRAV, le centre régional de l'audiovisuel. En synergie, la plaine de l'image sera spécialisée dans les domaines de l'audiovisuel, de l'image, du numérique. Qui a aussi pour vocation de rassembler et de faire converger les entreprises de ce secteur.
Donc on l'a bien compris, l'industrie lourde s'est terminée, là on est dans des industries d'avenir peut-être plus propres et peut-être on dit plus tendance développement durable, non? C'est difficile à dire.
Oui, c'est difficile à dire. Le développement durable est au cœur des activités.
Transversalement.
C'est un problème transversal où chacun essaye d'être à la fois moins polluant, moins toxique et de se développer durablement pour les générations futures.
C'est un projet d'un siècle, ça ?
Alors, en économie aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait se lancer sur des prévisions d'une telle durée. En tout cas, pour les décennies à venir, c'est, je pense, quelque chose. Ce sont des projets structurants pour la métropole.
Est-ce que la crise dont on nous rebat les oreilles, mais qui est quand même sensible, intervient ou pèse sur, sinon les décisions, sur les applications de ces décisions ?
En tout cas, là où on voit un impact de la crise, c'est notamment par rapport peut-être au problème du grand emprunt, hein, le grand emprunt que, lancé par le gouvernement actuel, a une orientation innovation, recherche assez importante. Et depuis que l'idée a été lancée, il a des difficultés à sortir véritablement. Les cahiers des charges qui permettront aux différents opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, d'y répondre et de candidater ne sont pas encore sortis. Mais on les attend prochainement.
Et Lila est dans les starting blocks, bien sûr.
Bien sûr, avec le price, en fait.
Voilà, donc ces nouvelles sont, on peut dire, plutôt rassurantes.
Alors, on attend de la part du grand emprunt effectivement un effet de levier important et de renforcement des initiatives déjà existantes. Hein. Ce serait par exemple un outil de soutien fort aux presses. Le presse avance, se constitue, mais si les moyens du grand emprunt arrivaient, ils renforceraient les capacités du presse dans ses prestations.
Donc là, on est au mois de mai, on n'a aucune idée des échéances ?
Logiquement, le cahier des charges est prévu, les cahiers des charges sont prévus pour le mois de juin. Donc effectivement, enfin, les gens y travaillent et réfléchissent déjà beaucoup.
Est-ce que justement, ça peut avoir des incidences sur l'organisation de la rentrée universitaire ?
Non, c'est trop tôt.
Non.
Non, pas tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe pendant les vacances dans votre service ?
Qu'est-ce qui se passe pendant les vacances ? Écoutez, pas forcément grand-chose. Les projets, nos actions sont des actions d'appui aux chercheurs. Lorsqu'il s'agit de répondre à des... on a par exemple un service d'ingénierie de projet qui soutiennent les chercheurs dans l'élaboration de projets, par exemple européens, qui sont des contrats, des projets complexes. Donc l'objet de ce service, c'est de répondre, d'aider les chercheurs à structurer leur projet, d'élaborer leur budget, de les aider à définir l'impact économique et social du projet, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, en fait, l'activité, par exemple, est conditionnée par les appels d'offres lancés par l'Europe. Et c'est des choses qui arrivent entre septembre et janvier. Donc,
donc la question, je la posais pour voir si, par rapport aux besoins des entreprises que vous soutenez, le calendrier se cale à peu près.
Alors, dans le cas, par rapport aux entreprises, ma foi, de toute façon, dans le service Créinov, il y a deux personnes, donc un peu plus de deux personnes. Donc elles s'organisent de manière à assurer une continuité, une permanence pour les conseils aux chercheurs.
Voilà, ben je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question de la valorisation. Donc, est-ce que vous avez des souhaits ? Est-ce que vous auriez des rêves que vous voudriez mettre en œuvre assez vite ?
Dans le domaine de la valorisation, il y a des domaines que l'université n'a pas les moyens actuels de réaliser. Et donc, en réalité, les projets presse sont... Le presse a été pensé dans le domaine de la valorisation pour venir compléter justement là où l'université a des faiblesses en termes de moyens et de compétences. Et donc, ce qu'on souhaite effectivement, c'est que ce presse se mette en place et les moyens de fonctionner, et de manière à ce que les chercheurs puissent trouver un accompagnement complet sur tous les domaines de la valorisation, de manière à aboutir à davantage de collaboration avec les entreprises, davantage de brevets et de transferts.
Qu'est-ce que vous attendez du grand public qui nous écoute maintenant ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose à prendre en compte, et à quel niveau ?
C'est des domaines assez spécialisés. Je pense que il me semble que c'est peut-être intéressant pour le public de savoir qu'une université s'occupe de cet aspect économique de la recherche. Il est important aussi, par exemple, pour des entreprises, de savoir qu'on a cette préoccupation-là, d'entretenir des relations avec elles, d'aider à les développer. Et donc, en termes d'image, il ne s'agit pas de voir l'universitaire ou le chercheur comme quelqu'un d'enfermé dans son labo, qui est complètement coupé des réalités du monde.
Bien, merci beaucoup, Madame Lecoutre. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de la valorisation à la DIRVED, et nous vous souhaitons bonne chance, bonne continuation dans vos domaines.
Merci.
Bonne journée.
Bonne soirée. Au revoir.